La CGPME au cœur des débats, en partenariat avec La Poste. La CGPME au cœur des débats, une émission de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, réalisée sur CFM Radio, animée par Rémi Toroella.
Pour cette édition de la CGPME au cœur des débats, les responsables de la CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, ont choisi d'inviter la liste qui se présente en face du candidat sortant aux élections à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn-et-Garonne, artisan de notre avenir. Donc, Xavier Reynich, bonjour.
Bonjour Rémi.
Tu es le chargé de communication de la CGPME en Midi-Pyrénées, en Tarn-et-Garonne.
Oui.
Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix pour cette émission d'inviter la liste artisans de notre avenir ?
Eh bien, parce que dans le cadre donc de cet accord national qui a été passé donc entre notre syndicat et diverses fédérations que je tiens à rappeler, donc la Fédération française du bâtiment, l'UMI, l'Union des métiers d'industrie hôtelière, la FFIE, de Fédération française des installateurs électriques, et bien sûr donc la CGPME. Et donc la CGPME étant une des composantes donc de Artisans de notre avenir, nous avons tenu donc aujourd'hui à donner la parole à certains colistiers qui se présentent donc à ces élections.
Alors les élections auront lieu le 13 octobre prochain, en fait du 29 septembre au 13 octobre, puisque ce sont des élections qui se passent avec La Poste,
par correspondance,
qui est le partenaire de cette émission d'ailleurs. Presque 5000 artisans du Tarn-et-Garonne voteront donc soit pour la liste UPA de Roland Delzer, soit pour Artisans de notre avenir avec qui on va faire connaissance. C'est vous, Gabriel Bellouna, qui êtes tête de liste. Vous avez donc 39 colistiers sur cette liste de candidats. Vous êtes menuisier, on a fait déjà connaissance il y a quelques jours sur cette même antenne, menuisier en Tarn-et-Garonne.
Oui, tout à fait.
Alors avec vous aujourd'hui, Pascal Paga, pâtissier boulanger, bien connu en Tarn-et-Garonne.
Oui, donc boulanger pâtissier sur la ville de Montauban, Saint-Étienne-de-Tulmont et Nègrepelisse.
Lynn Galvan, vous êtes coiffeuse à la française, on a fait connaissance dans une précédente émission.
Émission, tout à fait, voilà, je suis coiffeuse à la française.
Et Michel Montmaillou, plâtrier, avec vous aussi on a fait connaissance il y a quelques temps.
Voilà, plâtrier à Saint-Aignan, près de Castelsarrasin.
Alors, artisans de notre avenir, c'est le nom de cette liste. Comment est-ce que elle s'est constituée, Gabriel Bellouna ?
Eh bien, écoutez, la liste s'est constituée bien avant les vacances. Comme vous avez pu, comme a pu le dire tout à l'heure Xavier, donc elle s'est constituée avec les quatre composantes. Donc c'est le départ bien sûr de la liste. On a beaucoup travaillé à avoir une diversité des métiers sur cette liste, on y a beaucoup tenu. Donc diversité des métiers, diversité géographique, de façon à pouvoir, je dirais, représenter au mieux tout le département et également un maximum de métiers.
Mmh. Quelles sont les catégories de métiers qui sont représentées à la chambre des métiers de l'artisanat justement et dans votre liste du coup ?
Alors les catégories donc ça se décompose en quatre collèges. Donc vous avez les services, fabrication, alimentation et bâtiment. Donc ça regroupe, je dirais, tous les artisans.
D'accord. Et bien autour de cette table, on a tous les collèges qui pourraient être représentés. Donc service avec vous, Lynn Galvan.
Hein, oui, prestation, voilà.
Voilà les métiers de l'alimentaire avec vous, Pascal Paga. La construction, Michel Montmaillou, et puis vous-même.
Donc le bâtiment.
Le bâtiment. Là, c'est pas la même chose, menuisier, plâtrier.
C'est le même collège, tout à fait.
Non, je sais pas, il y a peut-être des choses qui m'échappent. Alors, le programme de Artisans de notre avenir, il se décompose en combien de points déjà ? En combien d'axes ?
Bah, écoutez, le programme se décompose en 6 axes. Je dirais 3 départementaux. Qui sont les défenses de nos valeurs, la formation et le CFA, et le fonctionnement de la chambre des métiers. Et ensuite, il y en a 3 qui sont, je dirais, plus nationales, dont le dialogue social, la fiscalité, fiscalité et auto-entrepreneur.
D'accord. Alors, les chambres des métiers, au niveau département, comment ça se découpe sur, sur l'ensemble du pays ? Il y a les chambres des métiers au niveau départemental, régional et national ?
Alors aujourd'hui, il y a une chambre des métiers par département. Pour la première, pour les premières élections depuis la constitution de ces chambres, il va y avoir en même temps que l'élection départementale une élection régionale.
D'accord. Et il y a même peut-être ce risque que les chambres, les métiers départementales disparaissent un jour. C'est un projet ça qui existe.
Ben je pense qu'il y aura certainement un regroupement. Régionalement, le but de la chaîne des métiers, c'est de, le but départemental, c'est serait de garder une antenne et même plus, hein, c'est que ça soit de garder, je dirais, une proximité de façon à ce que ça soit vraiment la maison des artisans, pour qu'une communication s'instaure durablement.
Mmh. Alors, si vous dites pour que ce soit vraiment la maison des artisans, c'est que vous trouvez que ça ne l'est pas aujourd'hui,
Ben aujourd'hui, je pense qu'il y a, un problème de communication. Les artisans que l'on croise nous demandent toujours à quoi sert la chaîne des métiers. Donc si cette question revient, je dis quotidiennement, ben c'est peut-être parce qu'il n'y a pas, de communication entre cette instance et ses adhérents.
D'accord. Pascal Paga, pâtissier boulanger, vous étiez dans la liste sortante et vous passez donc dans la liste opposée.
Oui. Je voulais juste revenir sur les propos de Gabriel. Je crois que aux dernières élections, 30% des inscrits ont voté. Donc ça représente bien aujourd'hui un détachement du monde de l'artisanat avec la chambre des métiers. Les artisans que l'on voit au quotidien n'ont pas l'impression que la représentativité, leur tutelle, c'est la chambre des métiers. Or, aujourd'hui, notre souci premier, un de nos soucis, est effectivement cette maison des artisans, ce serait un endroit où toute problématique, toute question ou autre, c'est l'endroit fédérateur de tout type. Voilà. Aujourd'hui, je crois que les 1500 et des poussières votent de la dernière fois, il faut arriver au moins au double, et là on aura gagné au moins le fait que les artisans se retrouvent un petit peu au sein de cette chambre de métier, et donc par le biais des votes ça sera une réponse à cela.
Sur le fait que vous ayez changé de...
Alors effectivement, pour ma part, donc j'ai décidé de changer donc
de liste.
Alors de bord, vous savez, moi quand je suis venu au sein de la chambre des métiers, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui dans la liste qu'il y a à ce jour, ce sont les représentativités, les syndicats départementaux qui élisent plus ou moins donc des gens et qui vont être représentés en chambre des métiers. Donc moi, pour ma part, j'étais tout à fait favorable au fait de venir, de donner de mon temps, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un bénévolat, ça demande beaucoup de temps, pour, je dirais, s'occuper du monde de l'alimentaire au sein du département, de l'agroalimentaire, puisqu'on a les bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers, traiteurs, cuisine, bon, et autres. Donc par rapport à ça, ça demande effectivement beaucoup d'investissement, et moi j'étais favorable à donner de mon temps pour cela. Je me suis rendu compte au fur et à mesure donc de ces un peu plus de 5 ans qui nous ont séparés que pour cela, pour mener à bien, on ne peut pas tout savoir. Un président de chambre des métiers a des compétences, certes, de rassembleur du moins en amont, mais après il faut savoir déléguer. Aujourd'hui, je crois que le premier des soucis de la chambre des métiers, c'est la délégation. Pour ma part de l'alimentaire, on était plusieurs, quelques-uns à être à l'alimentaire. Il y a plein de choses à faire. Nous avons d'ailleurs, on s'est occupé, je m'en suis également occupé personnellement. Le monde de l'alimentaire dans le Tarn-et-Garonne est un monde qui a pris beaucoup de retard au niveau de l'hygiène, sécurité alimentaire. Donc nous avons mis en place au sein de la chambre des métiers une personne qui justement vient, se déplace et donc fait des audits pour que les boulangers, pâtissiers, et charcutiers, traiteurs et autres du département puissent être aujourd'hui aux normes européennes. Moi, ce qui m'a beaucoup gêné au sein de cette équipe, c'est le côté non-délégation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas tout faire, on peut pas tout voir, on peut pas tout gérer, il faut savoir déléguer, et ça, je crois que le président d'aujourd'hui ne sait pas le faire et n'a pas forcément envie que ça se fasse. Donc ça, c'est la première des choses qui m'a le plus gêné. Et ensuite, je crois que quand Gabriel est venu me voir, qu'il m'a dit sa volonté, les raisons pour lesquelles il voulait faire ça, les gens qui allaient l'entourer, ben, je me suis senti bien dans cette équipe et j'ai envie d'être avec eux pour cela et donc de donner de mon temps et de mon savoir pour justement tirer vers le haut cette chambre des métiers, parce que je crois que cette tutelle était très importante aujourd'hui dans l'artisanat. Il faut quand même savoir que l'artisanat, c'est la première entreprise de France, vous le savez, on communique beaucoup là-dessus, donc c'est au travers de cela, je crois qu'après vous allez parler des jeunes, c'est ça, c'est notre préoccupation première qu'il faut absolument se préoccuper.
Vous avez dit que c'était du temps, Pascal Paga. Oui. C'est combien de temps sur, je sais pas, votre semaine?
Ben écoutez, il y a le bureau, une élection d'un bureau. Donc le bureau, c'est une réunion tous les mois. Sauf qu'après, il y a la représentativité de la Chambre des métiers. Dès qu'il y a des organisations, des inaugurations, il y a des collèges que l'on crée, parce que de la représentativité au sein des URSSAF, des ACI, au sein de tout un tas de représentativité au sein du département, à tout niveau qu'on peut, au des prud'hommes, j'en oublie beaucoup. Donc tout ça demande bien sûr du temps. Alors ça part minimum une réunion tous les mois, mais après il y a beaucoup de travail en amont, en aval, à faire quand on veut vraiment s'engager. Et je crois que justement l'équipe d'aujourd'hui, j'ai pu la voir et la rencontrer depuis pas mal de temps, ce sont des gens qui ont envie, qui sont engagés, qui viennent pas par force, contrairement peut-être ailleurs où il faut absolument des noms, et on marque des noms parce qu'il faut des noms, mais après l'important c'est qui va gérer cette chambre des métiers, comment, et c'est ça qui est l'objet du débat aujourd'hui, c'est ça le plus important.
Alors cette chambre des métiers, est-ce que elle est visitée, utilisée, questionnée par les artisans du Tarn-et-Garonne à longueur d'année, ou bien est-ce que le seul rapport finalement qu'elle a avec les artisans, c'est le moment du vote, comme bien souvent c'est le cas pour les citoyens qui vont voter et puis qui laissent après les politiques faire, je sais pas à qui je m'adresse. Oui, Michel Montmaillot.
Oui, alors moi je voudrais répondre à votre question. Je me suis installé en 1975, donc vous voyez, ça me rajeunit pas. Et depuis 1975, je n'ai jamais été, j'ai jamais eu une réunion à la Chambre des métiers, que les artisans ne sont jamais convoqués. Et au-delà de ça, je dirais, la Chambre des métiers, c'est les relations avec le CFA. C'est vrai que nous formons, moi j'ai formé beaucoup d'apprentis dans ma petite entreprise, et en fait, on n'a jamais été invité à visiter le CFA en tant que formateur, en tant qu'artisan. Et ça, bon, ça prouve qu'il n'y a pas de communication entre la Chambre des métiers et les artisans. Voilà. Et je pense que ça, il faut le changer.
D'accord. Voilà. Il y a quand même la remise une fois par an des trophées. Ouais.
Vous l'avez dit, une fois par an. Voilà. Ouais. Remise des trophées.
D'accord. Voilà. Lynn Galvan, est-ce que vous, il vous est arrivé en tant qu'artisan de vous tourner vers la Chambre des métiers à un autre moment que le jour où vous vous êtes inscrite sur le registre de la Chambre des métiers?
Eh bien, ça a été le parcours du combattant, parce que justement, lorsque j'ai eu trois entreprises, et en 1985, donc lors de la première inscription, ça a été effectivement le parcours du combattant, c'est-à-dire qu'il fallait partir à la préfecture, que la Chambre des métiers n'était pas capable de me dire les bonnes choses. Et voilà, donc très difficile. Et après, il n'y a pas d'autres contacts avec la Chambre des métiers en dehors de ces moments-là. Mmh. Et les moments où vous recevez une taxe à payer, point.
Et alors, est-ce que, si vous étiez élu, il y aurait plus de relations, plus de moments comme ça de partage avec les artisans? Et du coup, une question qui vient derrière, est-ce qu'ils ont le temps, les artisans, pour venir aussi? Parce que ils sont tous vachement occupés quand même, les chefs des toutes petites entreprises.
Oui, je crois qu'on est tous très occupés. Le but c'est qu'il y ait des échanges, qu'on trouve des créneaux horaires certainement où on puisse recevoir les artisans. C'est pouvoir leur communiquer des éléments qui leur permettent de se développer, de se mettre je dirais à jour en termes de qualification, comment dirais-je,
formation
de formation continue. Voilà, donc c'est vraiment cet échange, cette communication qu'il faut qu'on recrée, parce que je pense qu'elle a, elle a déjà existé dans le champ des métiers. Aujourd'hui, elle existe beaucoup moins ou quasi inexistante. Voilà, il faut vraiment recréer cette osmose avec avec les adhérents.
La formation, la mise aux normes, c'est des choses qui reviennent souvent. La formation, on a déjà un petit peu parlé du CFA, alors c'est vous, Lynn Galvan, qui êtes là pour nous parler de ça. J'ai reçu Roland Delzer il n'y a pas longtemps dans ce studio, qui comprenait pas les attaques de votre liste sur le CFA. Il se disait choqué, il s'est dit, il m'a dit, tiens, je pensais pas qu'on allait m'attaquer là-dessus, parce que moi je trouve qu'il fonctionne bien le CFA en Tarn-et-Garonne.
On ne peut pas dire qu'il fonctionne mal, c'est pas une attaque contre ce monsieur. Au contraire, on aimerait qu'il y ait un peu plus d'ouverture et qu'il y ait un peu plus de contact avec les enseignants, avec l'ensemble du CFA. On n'est plus invité au CFA. Moi, j'y étais il y a très longtemps avec un autre directeur, et actuellement, ça fait des années que je n'ai pas été sollicitée, ni j'aimerais qu'on ait vraiment un peu plus de contact pour parler de l'enseignement, pour parler des jeunes, pour pouvoir les intégrer, pour avoir des contacts.
Vous avez des apprentis un peu en permanence ?
Je n'ai plus d'apprentis.
Ah oui. Pourquoi justement ? Parce que ça vous ennuie, cette non-relation ou
Voilà, ouais. J'aimerais un peu plus de relations, justement.
D'accord. Vous, Michel Montmaillou, vous avez des apprentis ?
Oui, ouais. J'ai toujours eu des apprentis. Je trouve que c'est très important d'avoir des apprentis. Il faut former les jeunes. Mais là où je rejoins Lynn, c'est que c'est important parce qu'en fait, nous, on est enseignants en partie, puisque vous savez qu'on garde les jeunes trois semaines à peu près par mois dans nos entreprises.
Oui, c'est l'alternance. Donc,
c'est là l'important.
On va un petit peu à l'école une semaine et puis après trois semaines dans l'entreprise.
C'est l'alternance. Ouais. Donc c'est là où c'est important. Là, ce serait très important de rencontrer justement les professeurs, rencontrer les gens du CFA. La direction du CFA, puisque on est aussi en même temps enseignant comme eux, voilà. Donc et cette relation là elle n'existe pas aujourd'hui, c'est dommage.
Il n'y a pas un prof, un principal qui vient de temps en temps vous voir pour demander des nouvelles de l'élève?
Si, je mentirais si je disais le contraire. Et je fais de la formation depuis 35 ans, j'ai vu deux profs dans mon bureau.
Ah oui, depuis 35 ans.
Voilà. Alors je sais que bon, c'est pour eux aussi, c'est du travail, c'est pas évident. Et d'ailleurs, bon, ils ont leur travail et il y a les créneaux horaires peut-être qui ne correspondent pas avec nous. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il faudrait convoquer les artisans au CFA. Je pense qu'il faudrait les inviter au CFA et partager avec les professeurs.
Oui, parce que convoquer.
Plutôt les inviter.
Gabriel Belluna.
Oui, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de relever le niveau de sortie du CFA. J'ai des apprentis, j'en ai toujours eu. Je pense qu'on est confronté à un problème de fond où on a des jeunes qui sortent avec un niveau qui me paraît faible. Donc aujourd'hui, le but c'est quoi ? Mais c'est d'aider les enseignants en remettant les artisans, au cœur de la formation, les aider justement à rehausser ce niveau pour que à terme on ait des salariés, enfin des apprentis et des salariés compétents et qui aient aussi la capacité à reprendre une entreprise derrière, puisqu'il faut penser que ces entreprises artisanales seront tôt ou tard à reprendre, et il faut qu'on ait ce vivier de personnes qui soient capables derrière de reprendre ces petites structures.
Et ça veut dire quoi, remettre l'artisan au cœur de la formation ? C'est-à-dire en plus d'avoir dans votre entreprise des apprentis, vous seriez prêt à aller devant un tableau noir dans une classe du CFA ?
Je sais pas si c'est un tableau noir, puisqu'on est on est plus tourné sur la technique. Donc il faut
Il y a des profs issus du milieu professionnel.
Bien sûr,
quand
il y a des profs issus du milieu professionnel. Alors un des débats, c'est de est-ce que ces profs sont régulièrement recyclés, est-ce qu'on leur donne les moyens d'être régulièrement recyclés et revenir refaire quelques stages en entreprise. Aujourd'hui,
il y a un décalage selon vous entre l'ancien professionnel qui est devenu prof et
mais c'est humain au bout d'un certain temps. Je pense que c'est humain qu'au bout d'un certain temps, automatiquement, si vous ne rebaignez pas dans le contexte de l'entreprise, automatiquement ça va tellement vite que vous êtes décalé.
Mais Gabriel, si je peux me permettre, moi j'ai un exemple flagrant, c'est que
Michel Montmaillou.
voilà, l'artisanat a évolué, heureusement, on évolue avec les nouveaux matériaux. Hein, donc toi, dans ton métier, Gabriel, de menuisier, moi, dans mon métier de plâtrier, quand je dis artisan plâtrier, parce que je suis fier d'être un artisan plâtrier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille plutôt avec de la plaque
de
plâtre.
Vous êtes plaquiste aujourd'hui.
Voilà, à 98% avec de la plaque de plâtre. Et aujourd'hui, je vois qu'au CFA, encore il y a 2-3 ans, on travaillait au CFA avec du plâtre. Donc ça représente à peu près 1 à 2% de notre chiffre d'affaires. C'est là où le contact serait intéressant avec les profs pour leur expliquer que on a plutôt besoin de formateurs en plaque de plâtre que de formateurs en plâtre.
C'est voilà. Vrai, mais en même temps, est-ce qu'il faut pas, parce qu'on voit par exemple dans les belles bâtisses qui sont à rénover en pays Midi-Quercy, je pense à ça par exemple, des gens qui, on trouve plus d'artisans qui travaillent là chaud par exemple.
Je suis entièrement d'accord.
C'est quand
avec
même important aussi de pas... continuer à savoir faire un plâtre à la main peut-être.
Il faut pas le négliger, mais vous parlez d'un marché qui représente à peu près 3% du marché global.
D'accord.
Donc ça fait, il reste 97% du marché à faire, donc et ce marché-là il est là. Alors il faut pas le négliger, c'est sûr qu'il faut toujours apprendre. Je cite encore cet exemple à nos plâtres, à former des plâtriers, c'est parce qu'on en aura encore besoin. Moi, j'en ai encore 2 ou 3 dans ma société, mais il faut penser aussi que 97% du marché ou 98% se fait avec de la plaque de plâtre. Voilà.
Ouais.
Et donc, ça permettrait justement à cette relation artisan-prof de faire remonter l'information.
Donc, voilà. Il faudrait que les profs du CFA fassent aussi de l'alternance finalement
si
en entreprise.
Amener juste parce que vous avez dit, donc Monsieur Delzer ne connaît pas, enfin ne comprend pas ce débat-là. C'est tout ça en fait. Justement, ça retrace exactement la caricature de Monsieur Delzer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Monsieur Delzer a un très beau bâtiment. Ce bâtiment aujourd'hui a été financé tout neuf, a été financé par le Conseil général, régional et la municipalité de Montauban. Lui derrière tout ça, si vous voulez, c'est une façade, c'est un très beau bâtiment, il y a beaucoup d'élèves, c'est vrai, c'est bien, en nombre, en quantité, il y a d'ailleurs, on se plaint.
1100 élèves, un des plus gros CFA de Midi-Pyrénées. Hein.
Certains artisans également se plaignent que certains diplômes sont faits dans autre ordre du département, alors qu'on pourrait également les intégrer là, mais c'est surtout sur le point de la qualité. Je crois que Gabriel a parlé de la qualité. Nous, ce qui nous importe quand ce jeune est en entreprise, c'est de faire un très bon boulanger, un très bon pâtissier, et donc de faire que demain, ce sera lui qui reprendra les entreprises. Aujourd'hui, on n'en est pas certain, parce que effectivement, en nombre, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des chiffres qui parlent, le bâtiment, il est plein, enfin, il y a tout ce qui va, mais en termes de qualité, aujourd'hui, c'est là où il y a tout à revoir. Mmh. En relation avec les entreprises et qualité du jeune, c'est là-dessus qu'on se bat, et nous, pour nous, aujourd'hui, non, au CFA, on n'a pas ça. Nous, en tant que chef d'entreprise, on voit des jeunes tous les jours et on ne ressent pas ça.
Donc, peut mieux faire du côté de la formation,
en termes de qualité.
Selon votre liste, artisans de notre avenir. Et alors là, maintenant, une fois que la formation est faite, une fois que une fois que le jeune est prêt à reprendre l'entreprise, il va se tourner vers les banquiers. Ça devient une autre paire de manches là pour les jeunes créateurs. Qu'est-ce que vous proposez au sein de votre liste? Parce que j'ai vu quelque part faire pression sur les banques pour qu'elles accompagnent les artisans dans leurs projets. Faire pression sur les banques, de quelle manière?
Pression, c'est peut-être un grand mot, mais tout au moins accompagner les artisans dans une démarche de recherche de financement. Parce que je crois qu'aujourd'hui, dans tout métier confondu, notre gros souci, et surtout dans des périodes difficiles comme celle-là, ben c'est un problème de trésorerie. Donc on a, je dirais, ce problème de fond, et si on n'est pas accompagné par les banquiers, ça peut devenir assez problématique. L'une des missions de la chaîne des métiers se doit d'accompagner les artisans à rechercher des financements.
D'accord, alors de quelle manière? C'est des ateliers, des formes de stages pour...
Écoutez, oui, ça peut être des ateliers, ça peut être... c'est une relation avec les banquiers, c'est à approfondir, mais je crois qu'il y a vraiment un axe de réflexion à approfondir, oui.
Xavier Reynich.
Oui, sur la question du financement, il y aurait effectivement beaucoup de choses à dire, parce que c'est souvent là où le bât blesse. Et je pense que le rôle et l'ambition de notre liste demain, c'est surtout aussi d'impliquer faire pression sur les d'impliquer les pouvoirs publics, parce que faire pression sur les banquiers, Dieu sait que c'est difficile.
C'est ça. Ce sont quand même des gens. J'avais trouvé le mot super fort.
Ce sont, des gens indépendants, mais bon, il y a déjà mis en place par les services publics des systèmes de garantie, de contre, comme style OSEO, ouais. que malheureusement, la plupart des artisans ne connaissent pas. Donc ça serait, c'est le rôle à la chambre de métier
De faire connaître,
de faire savoir qu'il y a des moyens, donc de se faire garantir jusqu'à 75% des montants empruntés, d'avoir une contre-garantie amenée par l'État, par les best banks donc étatiques, OSEO. Mais il y a après d'autres voies à prospecter. Il y aurait peut-être pour l'artisanat de créer un fonds mutuel ou un système d'assurance qui viendrait, je dirais, garantir l'emprunt fait par l'artisan auprès de son banquier.
Qui serait issu d'une taxe de...
Non, mais pas issu d'une taxe... je crois que l'État a su trouver quelques centaines de milliards quand les banquiers en ont eu besoin. Je pense que quelques milliards pour les artisans devraient pouvoir se trouver facilement.
Autre sujet sur lequel vous êtes à peu près d'accord avec votre opposant Roland Delzer, c'est le statut d'auto-entrepreneur, je crois qu'il plaît à personne, ce statut d'auto-entrepreneur. Concurrence déloyale, faux statut, précaire. Gabriel Bellouna.
Le statut d'auto-entrepreneur, pardon, aujourd'hui, voté, est totalement déloyal. Un artisan, bien sûr, a quand même des charges très importantes, alors qu'un auto-entrepreneur a à peu près 23% de charges, tout confondu. Donc ça, c'est déjà un gros souci.
Il est limité quand même dans son chiffre d'affaires.
Il est limité dans son chiffre d'affaires.
80 000 euros hors taxe.
Par an.
Oui, mais ce qu'il faut rajouter quand même,
Michel Montmaillot, ouais.
C'est que il est limité dans son chiffre d'affaires. Moi, je connais des artisans qui travaillent tout seuls, qui font pas plus de 80 000 euros.
Ouais.
Donc voilà quoi. Donc c'est la concurrence vraiment déloyale, puisque ces artisans qui font pas plus de 80 000 euros, ils vont être taxés au moins à 50%. Alors on n'est pas contre entreprendre. Je trouve que moi personnellement, ça n'engage que moi. Je trouve que les Français n'entreprennent pas assez, mais ça n'engage que moi. Par contre, c'est bien puisque ça simplifie les démarches au niveau administratif. Mais par contre, je pense qu'il faudrait niveler au niveau des charges sociales. C'est-à-dire, moi, je dirais plutôt baisser les charges des artisans et peut-être un peu remonter les charges des auto-entrepreneurs, puisque 80 300 euros, tu dis, Lynn,
moi,
je connais franchement. Justement, je connais des artisans qui ne font pas plus de chiffre d'affaires et qui sont taxés à 50%. Donc l'auto-entrepreneur qui va faire 80 000 euros, qui va être taxé à 23%, va être gagnant. Donc c'est illogique.
Donc si vous êtes élu à la Chambre des métiers, vous lutterez contre ce statut-là ?
Lutter contre le statut, non, puisque aujourd'hui il existe. Peut-être. Voilà, il existe. Donc je vois pourquoi, je vois pas comment on pourrait lutter contre.
Ça peut être un pied.
Oui, parce qu'il y a
par contre,
même des
par contre, je dirais, par contre, oui, je vais tout faire pour le réformer. Oui, bien sûr, bien sûr. Une chose que je rajoute sur l'auto-entrepreneur, c'est également la qualification. Tout à l'heure, avec Pascal, on disait que aujourd'hui, à la sortie de l'apprentissage, on estimait que les gens, enfin que les apprentis avaient manqué un peu de qualification. Aujourd'hui, vous installez auto-entrepreneur, vous n'avez pas besoin de qualification. Donc, c'est vraiment tirer vers le bas l'image de marque de l'artisanat en général.
La représentation syndicale au sein des toutes petites entreprises, c'est un sujet qui vous tient à cœur, Michel Montmaillot, je sais. Vous êtes assez contre le fait que un représentant syndical extérieur à votre entreprise vienne.
Non, mais je crois que de toute façon, vous savez, je suis pas le seul en tant qu'artisan. Moi, j'ai une dizaine d'employés et tous les matins, je vois mes employés entre 7h et 8h du matin. Les heures d'embauche, ça dépend de la position géographique des chantiers, mais nous le matin, moi, vous voyez, ce matin j'étais à 6h30 à mon bureau, et donc je vois tous mes employés et le matin et le soir. Donc franchement, je vois pas ce que pourrait nous apporter quelqu'un qui venant de l'extérieur, ne connaissant pas notre entreprise, parce qu'en fait la représentativité syndicale dans les TPE, c'est quoi? C'est une personne d'un syndicat qui va venir dans notre société, qui va faire une réunion avec mes employés dans ma société, alors qu'il ne connaît pas du tout ma société, il connaît pas les tenants ni les aboutissants, voilà. Donc on peut pas admettre une chose pareille. Et puis bon, je voudrais quand même rappeler. Je voudrais rappeler à l'UPA et au président sortant qu'il y a eu un sondage de fait. Et dans ce sondage, 84% des artisans ont refusé la représentativité syndicale dans les TPE. Mmh. Mais là, vous allez me dire, c'est normal. Les artisans ne veulent pas de représentativité syndicale, surtout les
patrons,
les artisans.
Veulent pas, voilà,
les patrons n'en veulent pas.
Des syndicats dans les
Mais là où le bas blesse, c'est que 68% des employés de ces entreprises artisanales n'en veulent pas non plus. C'est-à-dire que les employés, à une grosse majorité, ne veulent pas de représentativité syndicale dans leur société. Ils disent quoi? Ils disent non, nous avons le contact avec notre patron, ça se passe relativement bien, et donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une représentativité extérieure dans nos sociétés. Donc aujourd'hui, on va se battre, artisan de notre avenir va se battre contre ce sujet-là, parce que c'est un sujet important, à mon avis, et quand vous voyez que 84% et 69% des employés le refusent, je pense que c'est un sujet très important.
Il y a une loi qui est dans les tuyaux, Michel Montmaillot, là-dessus?
Il y a une loi qui est dans les tuyaux, qui a été votée au Sénat, mais qui a été rejetée à l'Assemblée nationale. Donc, mais il faut être vigilant parce qu'on va tout faire pour pas que ça passe. Mais en plus de ça, ce qu'il faut dire, que ça implique autre chose. Ça implique que tout ça, ça va être financé, et ça va être financé par le 0,15% donc on cotise déjà nous dans le bâtiment, ouais, au niveau de la pro-BTP. C'est 0,15%. Donc c'est une taxe supplémentaire que nous n'avons pas besoin.
Voilà. C'est 0,15% pour financer la représentativité syndicale dans les petites.
Voilà, 0,15% de la masse salariale. Voilà. Alors c'est vrai, c'est 0,15, c'est pas beaucoup. Mais 0,15 plus 0,15 plus 0,15, les taxes, ça commence à faire, et on se bat contre ça. Voilà. Mais la représentativité syndicale, c'est un cheval de bataille pour nous. Contrairement au président sortant qui a voté pour, nous aujourd'hui on dit non, on veut pas de représentativité syndicale dans les TPE.
Gabriel Bellouna.
Oui, mais je crois que Michel a à peu près tout dit sur le sujet. Il faut absolument se battre pour éviter que ce dialogue vienne de l'extérieur.
Autre sujet, j'ai sous les yeux en fait la liste de votre programme à artisans. Alors pourquoi c'est 100% artisan? C'est la liste en Tarn-et-Garonne qui s'appelle 100% artisan. Donc qu'est-ce que c'est?
La liste s'appelle
artisan de notre avenir. D'accord. C'est un slogan alors en fait. Lutter contre l'augmentation des charges, ça ce sont des choses qui se font forcément pas tellement au niveau départemental.
Non, c'est plutôt un combat national sur lequel, bien sûr, on adhère, puisque, comme disait Michel tout à l'heure, je pense que les artisans aujourd'hui paient suffisamment de charges et je dirais même beaucoup trop. Donc c'est un débat qui reste national. Dans ce débat, il faut savoir que la TVA 5,5, elle s'arrête en décembre et on ne sait pas si elle sera reconduite. Donc aujourd'hui, c'est quand même un vrai problème de fond. Et si elle n'est pas reconduite, il peut y avoir quand même une perte d'emploi assez conséquente.
D'accord. Et alors, un des outils que vous voulez mettre en place, mais qui existe peut-être déjà, que vous voulez faire plus régulièrement pour que les artisans se rencontrent et se fassent connaître, c'est ces rencontres artisanales qui auraient lieu quoi, une fois tous les ans, une fois tous les 6 mois. Qu'est-ce que c'est exactement le principe, Pascal Paga?
Écoutez, je crois qu'il faut voir le besoin, activité par activité. Aujourd'hui, ces activités-là sont représentées par des syndicats. Les syndicats, aujourd'hui, pourraient être... comme base la Chambre des métiers, alors que tous les syndicats, vous les avez dispersés tout autour de Montauban ou d'ailleurs. Donc je crois que la maison des artisans, ce mot-là, et c'est un mot un peu fort, mais c'est retrouver ces gens-là, les artisans, les représentativités du moins de ces artisans-là, corporation par corporation, certaines corporations peuvent être mélangées, mais qu'il y ait du débat et que la Chambre des métiers soit pour eux un vecteur positif, quoi. C'est quelque chose qui les, quelqu'un qui les écoute et qui répond à leurs attentes. Donc un endroit de rencontre certainement, mais un endroit de rencontre où il y a du débat, mais où il y a des réponses à des questions. Parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de questions où les réponses n'existent pas. Un artisan par principe appelle son comptable pour un problème particulier. Le comptable ne peut pas répondre à tout cela. La chambre des métiers doit être le relais, le vecteur pour répondre à tout ça. La chambre des métiers aujourd'hui a des services de tout type, de tout ordre, pour répondre aux attentes quotidiennes d'un artisan, commerçant en place, en vigueur.
On arrive au terme de cette émission. Je vais vous demander peut-être de faire une sorte de tour de table, de mot de la fin à chacun. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a oublié d'évoquer pendant cette émission. À la limite, c'est le moment, lors de ce tour de table, de le dire. Et puis je donnerai donc le mot de la fin à Gabriel Bellouna. Je vais donc partir sur ma droite avec Michel Montmaillou.
Oui, alors moi je voudrais, Pascal vient d'en parler, mais c'est vrai que c'est important d'avoir une relation avec les syndicats qui représentent dont l'artisan de notre avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui on est exempt d'avoir vu le président sortant venir à la Fédération du bâtiment, venir à la CGPME ou venir à l'UMI, et c'est très important d'avoir ce rapprochement. Et c'est avec ce rapprochement, tout à l'heure vous nous avez demandé comment vous allez lutter contre l'augmentation des charges sociales, justement par ces représentativités, c'est-à-dire la Fédération du bâtiment, qui au niveau national est un gros levier, et la CGPME. Donc justement, nous, on va se rapprocher de ces syndicats. Pour le moment, c'est pas fait. Le président sortant ne s'en rapproche pas. Moi, la CGPME ou la Fédération du bâtiment, je l'ai jamais vu dans les réunions. Et nous, justement, ce qu'on propose à la DNA, c'est de se rapprocher de ces représentativités pour avoir un peu plus de puissance, justement pour que le levier soit plus fort pour au niveau national, essayer de faire passer nos revendications plus facilement.
Lynn Galvan.
Je voulais revenir justement sur le dialogue social. Donc vous disiez que c'était 0,15% de la masse salariale, et je pense que la CSG au départ était du même taux. Vous voyez actuellement à combien nous en sommes arrivés, donc il faut rester très vigilant au niveau de ces pourcentages. Voilà.
Pascal Paga.
Ben moi, pour ma part, je crois que le combat que l'on mène aujourd'hui au quotidien, la première des réussites serait que les artisans viennent voter en nombre. Ne pas voter, c'est pas bien. Il faut absolument voter, bien sûr pour notre liste, mais bon, peu importe, voter. Et je crois que ça sera une des premières réussites. On aura redonné envie à certaines personnes, à certains artisans de voter. Et ensuite, on peut leur garantir que si demain on est donc au sein de la Chambre des métiers, ce dialogue, il va renaître, parce que c'est pas normal qu'il y soit pas. Et on va au quotidien se préoccuper chacun à notre niveau, parce que je crois qu'il y a un bon groupe avec des représentativités de tout type de commerce, recréer le débat et vraiment à bras le corps remonter les manches et s'occuper de tout ça, parce qu'il y a vraiment un travail très intéressant, d'autant plus que la région vient aujourd'hui maintenant en plus, et on voit bien que cette régionalisation, donc nous au niveau départemental, il faut qu'on sauve bien sûr la chambre des métiers au niveau départemental, mais on sent bien qu'on va être que toutes les chambres vont être aspirées au niveau régional pour des raisons budgétaires certainement, mais il faut absolument garder et préserver cette chambre des métiers en Tarn-et-Garonne.
Gabriel Bellouna, tête de liste d'Artisans de notre avenir.
Et une des volontés fortes d'Artisans de notre avenir est de fédérer, de rassembler tous les artisans. Comme disait Pascal tout à l'heure, c'est l'une des, c'est, je dirais, la première entreprise de France. Donc je pense qu'on a des capacités et des moyens qu'on sous-estime. Donc il faut vraiment rassembler toutes ces forces pour pouvoir, je dirais, peser économiquement. Et comme disait Pascal, je lance un appel à tous ces artisans pour qu'ils votent. Ça sera déjà notre première réussite, je dirais.
Bien, merci d'avoir accepté l'invitation donc de la CGPME, puisque cette émission, c'est l'émission de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Je rappelle le nom de votre liste, Artisans de notre avenir. Xavier Reinich, je vous donne la parole juste pour annoncer ce que sera le sujet de la prochaine émission de la CGPME au cœur des débats.
Alors, plusieurs émissions d'ici la fin de l'année. La prochaine devrait porter sur le développement durable. Et le développement durable est-il compatible avec une activité industrielle et une activité économique. Nous aurons aussi une émission à laquelle devrait participer Monsieur Pascal Coste, donc le directeur de la pépinière d'entreprise Novalia, et le thème de l'émission serait donc les jeunes chefs d'entreprise. Notre trésorier prépare aussi une émission sur la fiscalité et la fiscalité touchant les entreprises, avec comme invité le sénateur maire Monsieur Yvon Collin. Enfin, il n'est plus maire, pardon, il est encore sénateur, excusez-moi.
C'était la CGPME au cœur des débats, une émission réalisée en partenariat avec La Poste.
La CGPME au cœur des débats, en partenariat avec La Poste. La CGPME au cœur des débats, une émission de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, réalisée sur CFM Radio, animée par Rémi Toroella.